Job chapitre 28. Job, c'est un peu avant les psaumes. Si Job chapitre 28. Job a plusieurs fois dit, oh si mes paroles pouvaient être écrites avec un burin, etc. Elles pourraient sur de la pierre et qu'on coule du plomb dedans. Si ça pouvait être écrit, eh bien ça a été écrit, oui, par Moïse, à l'époque de Moïse, 1430, mais Job, c'est un livre d'abord oral, de l'époque d'Abraham, et puis après, qui s'est transmis fidèlement, et qui est arrivé à la mise en écrit avec Moïse ou quelqu'un d'autre de son époque. Donc Job, chapitre 28. Voilà le sujet, c'est la sagesse. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la sagesse. Mais c'est un sujet tellement qui paraît compliqué, on peut dire tout ce qu'on veut sur la sagesse. On va essayer de savoir de quoi Dieu parle quand il dit sagesse. Job, chapitre 28. Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. J'aimerais autant que quelqu'un lise, mais le problème c'est que je voudrais que ça soit enregistré pour le site. Et quand c'est quelqu'un dans la pièce, on n'entend plus rien. Le fer se tire de la poussière, et la pierre se fond pour produire l'airain, donc le bronze. L'homme fait chasser les ténèbres, donc il prend des torches, des flambeaux, il explore jusque dans les endroits les plus profonds, donc les galeries, les mines, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits, loin des lieux habités, ses pieds ne lui sont plus en aide, il est suspendu, balancé loin des humains. Ben oui, par des cordes, hein. Vous savez, encore aujourd'hui, dans beaucoup de pays, les gens font des galeries, descendent avec des cordes, on les descend comme ça. Ou ben dans les mines modernes, c'est une cage, hein, c'est un ascenseur avec des câbles. Ça descend parfois à 300 mètres, 800 mètres, hein, avec les câbles modernes. La terre, d'où sort le pain, est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Ces pierres contiennent du saphir et l'on y trouve de la poudre d'or. Verset 7. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du vautour ne l'a point aperçu. Les plus fiers animaux ne l'ont point foulé. Le lion n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc. Il renverse les montagnes depuis la racine. Rendez compte, quand on dit des choses pareilles, déjà à cette époque-là. Et oui, évidemment, regardez les pyramides, les milliers de mètres cubes qu'on a tirés, et pour des tas de civilisations, on n'a pas attendu d'avoir des poclins, des grues Liber et tout ça, les machines Kawasaki, etc. Hein? On a depuis longtemps taillé les montagnes, de façon considérable. Regardez la ville de Petra, dont le prophète Abdias parle, Jérémie, Esaïe, qu'on a retrouvé en 1947, elle est en Jordanie, Petra, elle est taillée dans la montagne. Tous les temples, toutes les salles sont taillées dans la montagne. Donc, ce n'est pas des inventions, c'est des réalités. Verset 10, il ouvre des tranchées dans les rochers et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux et il produit à la lumière ce qui est caché. Pensez au tunnel d'Ézéchias, dans Jérusalem. Il y a un tunnel de à peu près 790 mètres. Hein, il y avait une équipe au nord de Jérusalem et une au sud. Elles ont creusé dans la roche sous la ville et se sont rencontrées. Et pourtant, pour la déclinaison du terrain, il a fallu faire des ondulations. Ça n'allait pas en ligne droite, volontairement, parce qu'il y avait des murailles, il y avait des habitations, et puis des roches qui ne contenaient pas pour faire passer l'eau, parce que l'eau serait perdue. Eh bien, les deux tunnels se sont rencontrés, hein, juste un petit décalage. Si vous allez un jour à Jérusalem, vous regardez ça, et c'est marqué le canal de l'envoyé. L'envoyé, c'est le Messie. Et c'est là que Jésus, à la piscine de Siloé, a guéri des gens. C'est cette eau-là qui vient, presque 800 mètres, presque... qui avait été creusé par Ézéchias et tous les hommes. Donc c'est clair. Il arrête l'écoulement des eaux, il produit à la lumière ce qui est caché. La source de Guillaume est apparue à la lumière dans la piscine de Siloé, 800 mètres plus bas. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. Donc la sagesse n'est pas humaine. Peut-être qu'elle est divine alors. L'abîme dit, elle n'est point en moi. La mer dit, elle n'est point avec moi. C'est quoi l'abîme par rapport à la mer? Ben, il y a des fosses de 9-12 000 mètres hein, dans les océans. L'abîme... Hein, la mer, la moyenne des mers, c'est 3800 mètres hein, d'épaisseur. Mais il y a des places où il y a 50 mètres dans la mer, 200, 300 mètres. Mais d'autres places, on frôle les 12 000 mètres. C'est ça l'abîme. Verset 15. Elle ne se donne pas contre de l'or pur, elle ne s'achète pas au poids de l'argent. La preuve, hein, regardez, il y a des riches sur la terre. Hein. Ce n'est pas pour ça que ça va mieux. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, donc le sud-Yémen, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale. Et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. Vous voyez que la sagesse dépasse l'éclat des bijoux. Combien de gens ont des bijoux pour se faire paraître? C'est pour ça que dans les églises, au culte, on insiste, bon, que quelqu'un a un petit bijou ou des trucs pareils, ça va, mais quand quelqu'un se couvre de des bagues, des chaînes, tout Saint Frusquin de bijoux, il y a quelque chose d'anormal. Parce que dans la Bible, on voit que la sagesse ne repose pas dans ces choses-là. Donc, il faut montrer une sobriété de manière à dire, je ne crois pas que c'est le plus important pour moi, je ne crois pas que c'est ça qui me met, qui me donne plus d'intelligence et de sagesse. Et donc, dans le livre des Proverbes, hein, une très belle femme, tel un anneau d'or au groin d'un pourceau. Ça veut dire, une femme n'a pas à paraître pour ses tenues, pour son argent, pour ses bijoux, elle a à paraître pour sa sagesse, pour sa modestie, pour son humilité, pour sa réflexion, pour sa richesse intérieure. Vous voyez ? Sa parure intérieure, comme dit Jacques dans son épître. Ben, pour l'homme aussi, évidemment. Hein. Ça concerne autant l'homme que la femme. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse ? Où est la demeure de l'intelligence ? 21. Elle est cachée aux yeux de tout vivant, elle est cachée aux oiseaux du ciel. Ben oui, les oiseaux montent très haut, et ils n'ont pas trouvé non plus. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin, c'est lui qui en connaît la demeure, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous les cieux. Donc vous avez vu tout à l'heure dans la lecture du psaume avec notre ami Michael, que Dieu voit tout, eh bien, il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous les cieux. Rappelez-vous, dans la fin du chapitre 2 ou 3 de Jean, Jésus ne se fiait point en eux, il avait fait des miracles, ils étaient tous en train de faire du cirque autour de lui, il se fiait point en eux, car il connaissait l'homme, il savait ce qu'il y avait dans l'homme. Eh, ben oui, il ne peut pas tromper Dieu tout de même. Il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux. Vous voyez, 21 siècles avant Jésus, que le vent a du poids. Quand vous avez un vent qui arrive de manière intense contre une maison, qu'on appelle ça une tornade, il arrache tout. Pourquoi ? Parce qu'il y a une masse, il y a un poids. Quand un avion vole avec des réacteurs, il aspire l'air, il emmagasine de l'air en dessous, il crée un volume d'air plus conséquent, et il y a des ailes. Ce n'est pas ces belles ailes-là qui peuvent porter l'avion. Mais il s'appuie sur le poids de l'air. Il y a une masse dans l'air. OK ? Eh bien, regardez, M. Job n'était pas un idiot, hein ? Parce que Dieu était en train de l'inspirer. Quand il régla le poids du vent, qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Donc nous avons ici une attitude morale, éthique, très importante, c'est de s'éloigner du mal, d'avoir la crainte de Dieu, de le considérer comme plus élevé que nous. Mais c'est pas tout à fait encore ce que la Bible dira plus tard. Hein? Ici nous voyons que la crainte du Saint-Testament est nécessaire aux croyants, mais on va plus loin dans la Bible. Hein? Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Évidemment, moi si j'étais légaliste, je dirais, dit tout ça avant, tout ce que j'ai dit avant la prédication, pour qu'il y ait de la crainte et qu'on serve Dieu. Mais non, c'est pas. Je ne veux pas enseigner la crainte. Je veux enseigner quelque chose de bien plus. C'est l'amour de Dieu. Luc chapitre 2, verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem. Luc 2, verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Donc il a 12 ans. Et le temple se termine. Hein. Il a fallu 49 ans ou 43 ans pour le construire, sous l'égide d'Hérode et de l'Empire romain. Et donc, ça se termine. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête, puis quand les jours furent écoulés, qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée du chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant, les interrogeant. Donc il les éprouvait. Il n'était pas en train de s'instruire, il les éprouvait. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Le moteur instinctif, c'est bien sûr la peur, l'angoisse, le reproche et tout des trucs pareils, la culpabilité. Et regardez bien, Jésus ne se glisse pas dans tout ça. Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ouais. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Ouais. Donc là, une attitude de sagesse. Je m'occupe des affaires de mon père. Ouais. Pourquoi est-ce que je demande que d'ici la fin janvier, chacun prie la parole et dire, voilà comment j'obéis à Dieu? Ben, c'est parce que vous allez expliquer comment vous occupez des affaires de votre Père des cieux. Simplement ça. C'est pas plus loin, c'est pas un tribunal, c'est pas un examen pour avoir un diplôme, et moi je suis pas plus que vous, mais devant Dieu, nous sommes ici, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous, eh bien il faut pratiquement savoir que le Seigneur veut nous entendre, de temps en temps. Il y a toujours les mêmes qui parlent. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendait avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Donc elle a été profondément touchée par la façon dont Jésus abordait les prêtres, sa tenue, ses paroles, son infinie sagesse et puis son sérieux, son engagement pour Dieu. Vraiment, c'est un électrochoc parce qu'elle le prenait pour un petit gamin. Pour quelqu'un qui lui appartenait. Elle se rend compte qu'il ne lui appartient pas. Elle est simplement là pour l'aider à grandir. Mais elle n'appartient pas. Combien de mères ont du mal d'admettre ça, que l'enfant ne leur appartient pas? Les pères aussi, d'ailleurs. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Ben oui, il y a de quoi une grande remise en question. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc en sagesse et en grâce, ben, tout vient de Dieu, bien sûr, évidemment. Et ce n'était pas de Joseph et de Marie qu'il retirait toute sa sainteté et sa sagesse. Voilà quelque chose. Jésus habité de sagesse. 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Épître aux Corinthiens chapitre 1. Premier Corinthiens, chapitre 1, versets 27 à 30. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Donc, un petit garçon, né dans une étable, exilé pendant 2-3 ans, et puis qui arrive à Nazareth, qui vit là de sa main, avec la famille, etc. Et le papa décède, il doit prendre en charge avec ses frères et sœurs la vie de la famille et de la maman. Puis à un moment donné, vers 30 ans, il part à Capernaum et il s'intéresse tout d'un coup, de manière très claire, très officielle, à ce qui se passe dans la société. Et pourquoi? Parce qu'il arrive à 30 ans, c'est toujours là qu'à 30 ans, certaines personnes, les prêtres et les lévites, étaient choisis pour servir dans le temple. Eh bien, lui, il va servir Dieu, non pas dans le temple, mais dans l'univers, jusqu'à la fin du monde. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Jésus, dans sa faiblesse, s'est révélé tout-puissant. Puisqu'il nous a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, j'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Mais avant, apparemment, c'est un échec. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont. Dans notre société, qu'est-ce qu'on voit à la télévision? Qu'est-ce qu'on voit? Toujours les messieurs en cravate qui ont fait des écoles polytechniques, qui ont fait avocat, qui deviennent président, qui deviennent etc. Qui deviennent financiers et tout. Et le petit gars qui va se lever à 4 heures du matin, qui va partir en voiture, qui va bosser, qui va rentrer à 8 heures du soir, lui, pof, il ne sera jamais mis en valeur, lui. Hein. Et la femme qui se lève, moi j'ai connu ça plusieurs fois, les femmes qui se lèvent à 3 heures du matin, qui prennent le RER, qui sont déjà dans le RER à 4h30, 5h, et puis paf, qui vont bosser dans Paris, et qui reviennent, et quand on a tout fini, à la fin du mois, les sous, on a tout dépensé pour vivre. Le loyer à Paris est cher et tout. Ben ceux-là, on va en parler où? C'est ça les choses viles de ce monde, c'est dont on prend haut les vilains, viles. Les vilains, les vilaines, il y en a plein. Pour qui? Parce que nous partons de l'idée que c'est ceux qui ont un diplôme d'école polytechnique, ou qui sont ingénieurs, ou qui travaillent dans une banque, qui ont une belle BMW, une belle Audi, je sais pas, ceux-là ils ont réussi. Et les autres, c'est des croûtes. Mais non, pas pour Dieu. Pour le diable, oui. Il voudrait bien qu'il y ait des tas de croûtes, qu'il n'y ait que des croûtes, lui, le diable. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Donc Jésus a pris la condition la plus humble, il n'est pas venu à l'époque d'Internet et des caméras. Il n'avait pas besoin de ça, de cette gloire-là. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse. Voilà, Jésus a été fait pour nous sagesse. Regardons Jésus, nous aurons et nous verrons la sagesse incarnée. Nous verrons la justice, c'est-à-dire la sainteté incarnée. Nous verrons la sanctification, nous verrons comment il s'y prend pour changer nos vies, pour transformer les individus. Nous verrons comment il a à l'œuvre pour faire un pécheur quelqu'un de saint. Et rédemption, nous verrons que par la croix, il a le pouvoir de nous racheter par son sang et d'obtenir pour nous gratuitement le pardon. Afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc Jésus a été fait sagesse. C'est vraiment un grand résumé là dans ce verset. Au chapitre 1, verset 17. Dans les églises, on met souvent en valeur le baptême. Mais pour moi, le baptême n'est pas une mise en valeur des gens. Le baptême n'est pas une mise en valeur du pasteur et de l'église. Pour dire, regardez, on a eu autant de baptêmes cette année-ci. Et tchik et tchak. Comme si on avait besoin de décoration. Regardez l'apôtre Paul. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Oui. C'est pour annoncer l'évangile. Donc, la mort et la résurrection de Jésus pour nous sauver. Et cela sans la sagesse. Du langage, donc pas un beau baratin, hein, qui entraîne tout le monde, avec des miracles, des guérisons, avec tout le monde court, ça y est, levez tous la main, venez vers moi. Vous êtes tous convertis, vous êtes tous devenus chrétiens. Paul n'a jamais fait ça. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc, nous voyons que ce qui est folie pour l'homme est sagesse pour Dieu. Il y a une opposition. Verset 21. Puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc l'annonce de l'évangile. L'annonce de l'évangile. Rien que ça. Verset 27. Dieu a choisi les choses folles du monde Donc, des hommes tout simples, tous les apôtres de Jésus n'avaient pas de diplôme, n'avaient pas été à l'école. Hein, il n'y en a pas. Il y a eu plus tard Luc, qui était médecin grec. Hein? Bon, ben, quand ils ont servi le Christ, ils ont progressé. Ils ont appris à écrire, ils ont appris à lire, ils ont progressé par amour de Christ, et ils ont pu écrire les évangiles. Mais c'était des travailleurs manuels. Ils n'ont jamais eu le temps de s'arrêter pour apprendre à lire et à écrire. Et il y en a combien sur la terre, les amis, qui sont comme ça dans cet état-là? Alors, au verset 28, Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse. Donc, Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption. 1, verset 30, c'est un verset clé, les amis, il ne faut jamais le perdre de vue. Jamais. Ok? Jamais. Au chapitre 2, verset 1 à 8. Je ne suis pas arrivé avec vous avec une supériorité de langage ou de sagesse. Je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, donc la vie de Jésus. Le Jésus de Nazareth, mort et crucifié, ressuscité. Verset 2. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Verset 6. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Vous avez entendu? On te réduit à l'impuissance. Crac, badaboum! Ce que Marx n'a pas pu arriver à faire, parce que de toute façon, le péché de l'homme est là, hein, et dans les communistes, il y en a plein qui ont remonté au-dessus pour écraser et dominer les autres. Chez les socialistes aussi, chez les écologistes aussi, chez tous. Il y en a toujours pour remonter au-dessus et tendre la laine sur le dos aux autres. Eh bien, ils seront tous réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Donc, c'est le Christ. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Le Seigneur Jésus est la sagesse incarnée, est la sagesse pour nos vies. C'est la révélation de la sagesse divine. C'est la sagesse venue sur terre. Eh bien, aujourd'hui, la sagesse doit démarrer votre journée et votre nuit, votre sommeil. La sagesse de Dieu, Jésus-Christ doit être votre sagesse. Ma sagesse, qu'est-ce qu'on est vite à côté de nos pompes si on ne se tourne pas vers le Seigneur. Verset 9. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Donc, rien de nos émotions, rien de nos intuitions, rien de nos expériences, de nos lectures, ne peut nous donner cette sagesse. C'est une sagesse que Dieu a préparée d'avance pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, nous pouvons avoir la sagesse de Christ en nous par le don de l'Esprit, par l'activité du Saint-Esprit en nous. C'est lui qui nous révèle la vraie sagesse. Sa vraie nature, c'est une personne, bien sûr. Verset 12. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, la sagesse culmine dans l'action de grâce, les amis. Moi, je vous propose, les dimanches, que la salle de culte soit ouverte à partir de 8h, 7-8h, qu'elle soit chauffée, et que vous pouvez venir prier dans le silence ici, 2 heures avant le culte. Vous puissiez venir prier. Vous puissiez prendre un carnet de chant, même chanter tout seul. Et je vous propose, si vous rentrez, de laisser prier ceux qui veulent prier, de ne pas causer de vos vaches cochons couvées dans la salle de culte. Je vous propose de faire de cet endroit un lieu de sagesse pour Dieu, ou là où l'Esprit Saint veut vous enseigner dans votre cœur ce qui ne viendra pas par vous-même, ni par la télévision, ce que j'ai vu, ce que j'ai lu. par mes neurones. Rien de nous, en nous, ne correspond à ce que Dieu est. C'est pour ça que tout à l'heure, quelqu'un disait « Il est le tout autre », Bénédicte, dans sa prière. Vous voyez ? Verset 14. « L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous, nous avons la pensée de Christ. » Prenons un bon départ pour 2018. Que cette salle soit chauffée et éclairée et qu'on puisse s'arrêter pour prendre du recul. Peut-être que si vous avez vu le film War Room, on l'a, c'est un DVD, peut-être que dans votre maison, vous devez déblayer un KGB. Regardez ce film et réfléchissez. Dégagez tout, faisant un lieu de prière, de recueillement. Qui ne vous distrait pas. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de TV. Pourquoi ? Pour pouvoir recevoir d'en haut. Pas se faire tromper par l'esprit du monde, qui n'est pas l'esprit de Dieu. Colossiens, chapitre 1. J'ai préparé ces choses, pourquoi ? Parce que nous allons arriver à Noël. Mais le petit Jésus de Noël, avec la crèche et tous les chants de Noël, mais il ne faut pas quand même qu'on se dope avec ça, ce n'est pas du cannabis. Il faut qu'on aille vers le vrai Jésus que Dieu nous a envoyé, et qui est là, qui est vivant, ressuscité. Colossiens 1, verset 9. Colossiens, chapitre 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Colossiens chapitre 1, verset 9 à 11. Alors, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Comme Jésus. Comme Jésus sortirait dans la montagne pour être à la source. Hein? Et regardez au verset 12. Conséquence de tout cela, quand on s'abreuve à la bonne source, quand on prend le temps d'arrêter tout, toutes les vagues, les mugissements des flots, de la mer qui nous atteint dans nos âmes, qui trouble nos cœurs et nos esprits, nos corps, quand on a pris le temps de faire cette bataille, il y a la place pour la sainte sagesse de Dieu, et elle culmine, verset 12, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Donc, la véritable sagesse de Dieu est de nous rendre capables d'avoir part à la lumière, à la vie du ciel, à la vie des saints. La vraie sagesse de Dieu, c'est de nous donner, non pas ce que le monde donne et qui est pourri, c'est de nous donner ce qu'il y a en lui, dans son ciel, dans sa vie avec les anges et les archanges. Et il nous donne la délivrance de la puissance des ténèbres, donc de Satan. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. On ne s'est pas allé soi-même aux États-Unis, par exemple, en pédalo, hein, ou à la nage. On prend un avion, on prend un bateau. Eh bien, c'est la même chose. Pour être en Dieu, il faut être transporté. Et le moyen de transport, c'est Jésus-Christ. Yavol ? Pas d'autre. Alors, et nous avons la rédemption, le pardon des péchés, donc nous sommes nettoyés d'une dette, mais d'une dette un peu impossible, de toutes nos conneries, de tous nos égarements, parce qu'on est capable de tout, hein. On est capable de tout, même quand on devient vieux. Quand on devient vieux avec l'âge, on deviendra encore plus con si on s'écoute. Je vous le dis, moi j'en fais l'expérience, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on en a hérité une couche d'Adam et Ève? Alors, Colossiens, chapitre 1, verset 25. De cette sagesse, de ce Jésus, c'est d'elle que j'ai été fait ministre. Colossiens 1, 25. Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant, c'est saint. Ah, c'est un serviteur, un ministre, c'est un serviteur, hein, qu'il connaisse. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, la certitude de la gloire. Si j'ai reçu Jésus dans ma vie, c'est un trésor inimaginable, considérable, éternel, qui est vivant, qui est venu en moi, qui me donne la certitude de la gloire, de la réussite de ma vie, de la transformation. Il n'y aura plus un seul péché, il n'y aura plus aucune connerie, plus aucun égarement, il n'y aura plus que la sagesse de Dieu en moi. Eh bien, Seigneur, merci, parce que moi, j'y arrive pas. Merci de achever en moi ce que tu as commencé. Hein? Dans les deux Thessaloniciens, deux épîtres, Paul le dit, hein, ce que Dieu a commencé en vous, il l'achèvera. Eh bien, regardez, Christ en vous, la certitude de la gloire, glorieuse richesse de ce mystère, c'est le Christ. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse. Donc, instruisant en Christ, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Finalement, la vraie sagesse, c'est Jésus-Christ. La sagesse, c'est la personne de Christ. Finalement, la sagesse qui m'attend, c'est de ressembler à Christ. C'est d'être totalement, totalement changé. Alors, dans le chapitre 2, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Vous imaginez, hein, c'est... On va en reparler après. Et pour ceux qui sont à Laodicée, l'église de Ramolli, là. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour, enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ. Chaque fois, hein. Le mot mystère, c'est pas quelque chose de... C'est impossible, on ne connaîtra jamais. Mysterion, c'est réalité qui se dévoile et que j'apprends. Au fur et à mesure de ma foi, j'apprends à connaître. Et que Dieu m'enseigne, me dévoile. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc le Christ a tous les trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu. C'est pour ça qu'il a commencé dans le temple à 10 ans et qu'il a cloué la bouche à tous les prêtres. Ok ? Vous vous rendez compte que Jésus, à 10-11 ans, là dans le temple, et ça y est, paf, les autres sont
ébahis.
Confondu, c'est-à-dire, il va falloir qu'on retourne à l'ABC de notre foi. Hein? Tous les jours, les amis, tous les jours. Tous les jours de 2018, il faudrait que nous ayons un moment dans notre journée où nous sommes confondus. Nous comprenons que Jésus est notre trésor. Et le trésor, c'est pas nous. Trésor de sagesse et de connaissance. Quelle année réussie pour être prêt pour la venue de Jésus? Vous savez que les sismologues à Jérusalem, le mont des Oliviers, Jérusalem, ils enregistrent déjà des tremblements de terre, des prémices. Or, dans Zacharie, c'est clair, quand Jésus revient, c'est quand le mont des Oliviers se fracture et descend. Les sismologues, des scientifiques. Alors, nous avons une grande joie, c'est d'avoir reçu un grand trésor en nous. Et il ne faut pas le négliger, parce que nous avons facilement l'art de négliger tout ce que nous recevons de Dieu. C'est pour ça que notre brave Noémie, quand elle dit, elle revient tout le temps avec ça. Moi, j'ai toujours considéré, déjà en allant trouver Marie-Hélène pour la marier, et après, en voyant les filles, c'est pas parce que c'est une femme qu'il ne faut pas écouter. Moi, je ne considère pas ça comme ça. Si Dieu a quelque chose à dire, par elle ou elle, il faut l'écouter. Dieu se sert de qui il veut, à part égale, homme ou femme. Mais le problème, qu'est-ce que je fais de ce que j'entends ? C'est pour ça qu'avant la prédication, je vous ai parlé de la manière que je vous ai parlé. Il est temps. Dans Luc 21, nous devons réussir le projet. Nous avons reçu 100 visites. Nous devons réussir le projet que nous avons commencé. C'est d'en gagner à la vie éternelle. Pas pour qu'ils remplissent les bancs ici. Ce n'est pas notre but. Qu'ils aient la vie éternelle. Il faut les visiter, il faut prier pour eux. Nous devons réussir le projet. Oui, je veux prendre la Sainte Cène avec dignité, respect et obéissance. Je suis digne du sacrifice de mon maître, de mon sauveur. Et je ne prends pas ça comme n'importe quoi, comme ça se fait partout. Comme un paquet de cacahuètes. Luc 21, verset 14. Nous devons être capables de réussir quelque chose que Dieu a mis dans notre cœur pour sa gloire. L'école. L'école pour les enfants. Les enfants qui se perdent partout dans notre société. L'école. Nous devons réussir quelque chose. La maison de prière. On se met à genoux. Pas le choix. Mais quel privilège, quelle grâce. Je comprends qu'il faut se mettre à genoux. Et de le faire. Luc, chapitre 21, verset 14. Nous sommes dans un monde difficile, que ce soit dans notre famille, dans le quartier ou n'importe où. Mais regardez bien ce que Paul dit à propos de la sagesse. 21, 14. Mettez-vous donc dans l'esprit, donc dans la pensée, de ne pas préméditer votre défense. Car je vous donnerai des paroles et une sagesse telles que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Donc je peux préméditer que les autres vont me répondre et je dis rien. Je peux préméditer que les autres me rendent rapport tout le temps, donc je ne vais rien dire. Ça, c'est du préméditer. Je me descends moi-même. Je me descends moi-même. Je manque de sagesse. Je ne fais pas confiance en Christ qui est venu dans ma vie. Je me repose sur moi. Alors que j'ai reçu Christ, je me repose sur moi, pas sur lui. Alors, regardez ce qui est dit par notre Seigneur Jésus. Verset 15, « Je vous donnerai des paroles et une sagesse, telles que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis, feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un seul de vos cheveux. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Les amis, moi j'admire quand je regarde la télévision, il y a des grèves parfois en Belgique, en France, je vois les délégués syndicaux, je vois les gars qui font la grève. La grève à la télévision, ça ne dit rien. Mais moi, j'ai vu à la Louvière, tout près de Charleroi, une grève où il y avait 5-6 000 personnes qui faisaient grève. Parce que c'est un patron horrible. Il manipulait, il vendait les usines, il retirait des sous, il avait eu les primes de l'État et tout ça. Ces gens-là, depuis des semaines, faisaient grève. Toutes les femmes de tous ces ouvriers leur faisaient à manger. Elles apportaient. Tout le monde partageait. Moi, je me rappelle de ça. Je dis, mais ils vivent l'Évangile, ces gens-là. Ils vivent comme si c'était des chrétiens et ils étaient tous communistes. Moi, j'ai voté communiste des années. Et ce jour-là, ils m'ont demandé de prendre la parole et de leur parler. Ça, je ne m'y attendais pas. Ça a été un électrochoc pour moi. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient pourtant qui j'étais. J'étais prêt ouvrier. Mais ce qu'il y a, ils avaient compris que je ne trichais pas avec eux. Quand vous prendrez la parole, dans le mois de janvier ou décembre, ici, Faites comme quand moi, ce jour-là, j'ai ramassé mon électrochoc. Sachez que Dieu qui vous écoute doit savoir si vous trichez ou ne trichez pas. Cherchez l'approbation de Dieu. Dites quelque chose qui est approuvé par Dieu et qui vous donnera la paix, qui vous fera grandir. Si vous dites quelque chose dans la plus sincère loyauté avec le Seigneur, ici, une petite communauté de rien du tout, pour les hommes, mais pas pour Dieu. Si vous dites quelque chose du fond de votre cœur, dans la sincérité, en toute loyauté, Dieu vous fera grandir. Et vous serez plus fort pour parler là où vous êtes, dans votre travail, dans votre famille, etc. Avec les contradicteurs. Il ne se perdra pas un seul de vos cheveux. Des fois, il n'en reste pas beaucoup, mais c'est comme ça. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Et le petit verset après, lorsque vous verrez Jérusalem investi par mes armées, sachez alors que sa désolation est proche. Bientôt, à Jérusalem, les armées du monde vont vouloir obliger les Juifs à en faire une capitale musulmane. Bientôt, on va arrêter. On va démolir les murs. On va exclure les gens cisjordanais. Bientôt. Mais on fera un cadeau. On va vous construire votre temple à côté de la mosquée. Bientôt, les armées des nations seront à Jérusalem. Alors c'est le temps de la fin. Les armées des nations, ça s'appelle les casques bleus. La sagesse de Dieu est bien plus grande que notre sagesse. Et l'amour de Christ dans nos vies est notre sagesse. Seigneur Jésus, Seigneur de gloire, Seigneur de paix, toi qui as vécu humblement, qui as marché à pied, qui as vécu avec les pauvres et les riches, qui as mangé à toutes les tables, qui as pleuré avec ceux qui pleuraient, qui as ri avec ceux qui riaient, qui as bu du vin avec ceux qui buvaient du vin, qui a eu soif avec ceux qui avaient soif, qui a eu des clous dans les mains, comme beaucoup d'autres ont eu des clous dans les mains dans l'Empire romain. Mais toi qui as porté tout le péché du monde, ça personne ne l'a fait. Toi Seigneur Jésus, toi qui es ressuscité par la puissance de Dieu, ton Père, toi tu es ici, conduis nos vies, sois notre trésor. Là où est notre trésor, là est notre cœur, tu l'as dit. Vraiment Seigneur, que notre cœur soit vivant, brûlant, ardent, comme les disciples d'Emmaüs, dans ta présence. Amen. Qui veut prier ?